Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des antivirus avec Renaud Tabary. Bonjour Renaud.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Paul Amar.
Bonjour tout le monde.
Nicolas Rue.
Bonjour.
Et Hervé Schauer.
Bonjour.
Alors Renaud, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Renaud Tabary. J'ai effectué toute ma carrière dans des sociétés qui traitaient de près ou de loin aux problèmes du malware. Voilà, j'ai travaillé pour des éditeurs d'antivirus, j'ai travaillé dans la réponse à incidents. Et actuellement, je suis encore employé pour une société qui développe un antivirus.
Alors, quand on parle d'antivirus, on parle de quoi ?
Un antivirus, c'est tout logiciel qui va être installé en local pour détecter tout simplement les programmes malveillants qui arrivent sur votre ordinateur avant qu'ils s'exécutent.
Et donc, on parle maintenant d'antivirus next-gen en opposition aux antivirus classiques. Qu'est-ce qui les différencie ?
Alors, si on écoute leur discours marketing, les antivirus next-gen apportent des technologies novatrices, comme l'intelligence artificielle, et vont essayer de s'éloigner ce qu'on colle d'habitude aux antivirus, qui s'éloigner du modèle de détection par signature. Voilà, un modèle plutôt obsolète et qu'on colle par erreur souvent aux antivirus traditionnels.
En quelques mots, est-ce que tu peux définir justement la détection par signature ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Comment ça peut reconnaître un virus ?
Alors, il y a toute une panoplie de technologies pour détecter un virus. C'est une technologie qui a évolué au fil du temps. Et la première technologie qui a eu lieu, qui est apparue en même temps que les premiers virus, donc c'est une technologie très simple, c'est détecter un virus en identifiant un pattern, une séquence dans le code du programme connu. Et tout programme qui possédera cette séquence sera détecté comme malveillant. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple. Vous pouvez voir ça, par exemple, comme une expression régulière, tout simplement, qui va détecter un texte. C'est le même principe pour un programme.
Et pour nos auditeurs les plus jeunes, il faut savoir que les virus et les antivirus sont nés avant Internet. Alors, comment on faisait quand on n'avait pas Internet pour avoir des bases de signatures ?
Alors, ça, c'est une bonne question.
Tu as la réponse à cette question, tu allais chez DP Tool Club et tu commandais des disquettes avec les mises à jour dessus. Ou alors tu achetais des magazines et il y avait la disquette ou le CD-ROM avec les dernières mises à jour joint au magazine.
Non mais c'est important que nos auditeurs sachent que les virus, ils sont arrivés avant Internet, grâce à MS-DOS.
Bien avant.
Dans les années, à la fin des années 80.
Oui, c'était le virus Brain le premier, hein, historiquement.
Oui, c'est celui que la littérature a retenu. Après, bon, il y a les trucs de laboratoire et puis il y a les vrais trucs, mais bon. Et les virus se dupliquaient parce que nous étions des copieurs de logiciels. Et donc, on se copiait les disquettes. Et en se copiant les disquettes et les programmes moyennement, honnêtement, eh ben, malheureusement, on se copiait les virus. Bon. Toute ressemblance avec des choses plus actuelles serait fortuite.
Il y a quand même quelque chose qui a disparu, c'est le fait que quand tu oubliais ta disquette dans ton PC au moment de booter, en fait, le PC démarrait par défaut sur la disquette, et à ce moment-là, si la disquette était infectée, elle contaminait le disque dur de l'ordinateur, et c'était comme ça que se transmettaient les virus, en fait.
Exactement.
Même du temps où il n'y avait pas de disque dur aussi. Il fallait booter sur la disquette.
Et du coup, les antivirus ont quand même assez mauvaise réputation. Qu'est-ce qui fait que...
Ils ont une réputation d'être vieillots. C'est pas pareil.
Alors, quelle est la différence entre le bon antivirus et le mauvais antivirus ? Le bon antivirus, il voit kernel 32.dll, bon, il tire, mais c'est un bon antivirus, quoi.
Ouais, bon, c'est pas vraiment une question où je dois répondre, je suppose. Ouais. Alors, un bon antivirus, en pratique, si on regarde un peu, il va apparaître au top du classement des tests antivirus. C'est souvent comme ça qu'on reconnaît un bon antivirus. C'est très dur d'évaluer un antivirus. On peut avoir un feeling, hein, quand on est RSSI, cet antivirus, il a un peu plus de succès que celui-là, mais c'est quand même quelque chose qui est assez dur à quantifier. Et il y a deux sociétés, enfin... principalement deux sociétés, à ma connaissance, qui se chargent de quantifier la qualité d'un antivirus, ce sont les sociétés de test antivirus. Par exemple, AV Test ou AV Comparative, voilà. Ce sont les deux plus connus, je pense, même s'il y en a d'autres. Et chaque mois ou semestre, ils vont effectuer plusieurs tests qui vont essayer de simuler des cas d'infection qu'on peut voir dans la nature, donc, et les lancer ça dans des machines virtuelles où sont installés plusieurs antivirus et voir lequel réagit mieux. Voilà. Ce sont des tests où il peut y avoir éventuellement jusqu'à 100 000 infections qui sont effectuées et ils regardent les résultats.
Et les tests sont basés sur des analyses comportementales? Est-ce que c'est seulement sur la base de signatures?
Alors, il y a plusieurs tests. On va voir, souvent, il y a un barème qui est fait. Évidemment, le but pour les antivirus, c'est de détecter le malware quand il arrive sur le disque dur, avant même qu'il soit exécuté. Voilà. Mais après, ces tests-là s'autorisent plusieurs tranches. On va voir, par exemple, est-ce qu'il est détecté quand il arrive sur le disque? Est-ce qu'il est détecté quand l'utilisateur clique dessus? Est-ce qu'il est détecté quand le virus a effectué sa première activité malveillante? Voilà, il y a plusieurs étapes.
Voilà, ça nous fait revenir au fonctionnement des antivirus. On a parlé de signature. Tu disais que ça avait évolué. Et donc, ça a évolué comment?
Ça a évolué, en fait, en parallèle. Hein, c'est le jeu du chat et de la souris, hein, en parallèle avec l'évolution des virus. Au début, les virus, ils étaient statiques. Hein, ils ne bougeaient pas. Donc, une simple signature, ça détectait le virus, parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Ensuite, on est arrivé avec des virus polymorphiques. Donc, ce sont des virus qui vont muter. À chaque nouvelle infection d'un nouveau programme, le code du virus va changer légèrement. Donc là, il a fallu donc avoir des signatures plus poussées. Et puis ensuite, on s'est mis à avoir des détections par heuristique. Alors, une heuristique, pour faire simple, ça va être une anomalie qu'on va voir dans le programme. Un programme infecté, il va pas ressembler trait pour trait à un programme normal. Il va y avoir quelques anomalies. Par exemple, une section va être ajoutée à la fin du programme. Quelques champs du programme, de l'entête du programme vont être modifiés aussi. Les virus font souvent des erreurs et la détection heuristique va se charger de détecter ces erreurs.
Est-ce qu'une heuristique reste une signature dans ce cas-là?
Alors, une heuristique, je ne qualifierais pas ça de signature. Une heuristique, c'est un bout de programme, ni plus ni moins. C'est quelques lignes de code qui vont détecter une anomalie, une technique. Ça ne va pas détecter forcément un virus ou une famille, ça va détecter plus une technique.
Oui, parce que pour faire mon moment Hervé Schauer, les premiers virus, enfin les virus de deuxième génération plutôt, post-MS-DOS, avaient tendance à modifier des exécutables pour être sûr de pouvoir être relancés. Et chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, puisque tous les binaires Microsoft sont signés, par exemple, et la plupart des exécutables sous Windows ou sous macOS, ils le sont tous. Et donc à partir de là, c'est plus difficile de rajouter une section ou d'aller infecter un exécutable légitime comme ça se faisait dans les années 2000, quoi.
Oui, c'est plus difficile, même s'il y a encore quelques infecteurs de fichiers qui sont encore dans la nature. Par exemple, Ramnit, je crois, il tourne encore. Et si je ne sais plus, hein, peut-être il n'est plus en activité, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, son botnet était encore utilisé, donc à des fins malveillantes. Et ça, c'était un infecteur de fichiers.
Mais tu parlais d'IA tout à l'heure. Est-ce que l'IA est réellement utilisée ou est-ce qu'on reste au niveau d'heuristique? En gros, est-ce qu'il y a des modèles à l'intérieur des logiciels antivirus aujourd'hui ou est-ce que le fait que l'absence totale de faux positifs est un objectif ultime pour les antivirus fait qu'on ne peut pas reposer sur l'intelligence artificielle pour prendre des décisions?
Alors, l'intelligence artificielle est utilisée dans les antivirus. Alors, je vais parler de celui pour lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Je sais qu'il a été mis en œuvre dès 2010-2011, donc avant tous les antivirus next-gen dont on entend parler actuellement. Alors, au début, évidemment, avec beaucoup de précautions, c'était plutôt utilisé pour filtrer des choses ou aider les analystes à faire du tri. Mais maintenant, je ne me trompe pas, je pense, quand je dis que la quasi-totalité des antivirus utilisent le machine learning pour faire leur détection.
Et donc là, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que c'était du machine learning qui était utilisé avec de l'apprentissage supervisé en se disant, bah, voilà finalement des cas de virus, de malware, pour effectivement essayer de diminuer le nombre de faux positifs? Est-ce que c'était typiquement d'autres choses qui étaient utilisées?
Alors, ça va dépendre de l'antivirus. Hein. Il y en a qui vont se baser sur du deep learning, d'autres sur du machine learning. En l'occurrence, j'ai l'impression que c'est quand même plus le machine learning qui fait consensus, parce que c'est un peu plus facile à expliquer. Et expliquer, ça veut dire aussi tracer les faux positifs et mieux les contrôler, forcément.
Ah, tu parlais de d'heuristiques, enfin d'antivirus next-gen, il y en a un qui a défrayé la chronique récemment. Il me semble que ces outils-là utilisent en gros la matrice Mitre Attack pour détecter en fait des techniques d'attaque plus que des modifications de programme ou des signatures. C'est-à-dire par exemple le fait d'aller faire un write process memory sur le lss.exe par exemple. Normalement 100% des antivirus du marché le détectent. Est-ce que c'est la différence entre un antivirus ou un EDR, enfin, est-ce que cette différence fait même du sens? C'est quoi un antivirus next-gen par rapport à un XDR, un MDR?
Alors, un antivirus next-gen, c'est avant tout un terme marketing. Ce sont des sociétés donc, qui essayent de se démarquer de cette détection un peu obsolète qui n'est plus, vu que, comme je l'ai dit, les antivirus actuels utilisent tous le machine learning, l'émulation. Ils vont se reposer donc sur le machine learning pour faire la détection statique, pour la simple et bonne raison qu'ils sont arrivés sur le marché après les antivirus classiques, et donc ils ont 20-30 années d'historique de virus à détecter et à rattraper, et ça c'est très difficile à faire, et le machine learning ça permet de le faire quand même relativement rapidement. Et effectivement, en parallèle de ça, ils vont aussi beaucoup mettre l'accent sur tout ce qui est détection dynamique, en temps réel, ce qu'on appelait autrefois dans les antivirus le HIPS, le Host Intrusion Prevention System, donc existait aussi dans les antivirus classiques, qui existent toujours, mais eux, ils vont mettre l'accent encore plus là-dessus. Donc effectivement, tout ce qui est détournement d'appel système pour détecter l'activité d'un malware en temps réel et le bloquer.
Mais comment on fait pour vérifier qu'un antivirus continue à détecter ce qu'il détectait avant, les anciens virus? Est-ce qu'il faut avoir toutes les versions d'OS et tous les virus de chaque époque sur une machine et pour vérifier qu'il n'y a pas de non-régression, retester l'antivirus? Et ceux qui ont utilisé du machine learning pour apprendre tous les virus qu'ils ne connaissaient pas avant, comment ils ont vérifié qu'ils détectaient bien tous ces vieux virus, puisque justement, comme ils ne sont pas aussi anciens que les éditeurs historiques d'antivirus, est-ce qu'ils ont la base de données de tous les virus depuis la nuit des temps?
Alors, en théorie, il y a une sorte d'entente tacite entre les sociétés d'antivirus. Ils vont avoir tendance à se partager leur base de malware. Hein, c'est du donnant-donnant. Je te donne la mienne et tu me donnes la tienne. Et ensemble, on va détecter plus de choses. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours aussi idyllique, évidemment. Mais en tout cas, je pense que ces sociétés-là ont accès, en tout cas, à une partie de cette base de données historique.
Il y a des formats standards. Par exemple, on se partage les bases de données. Est-ce qu'il y a un format qui est utilisé par toute la communauté, toute l'industrie?
Alors, il y a quelques initiatives. Alors, un format standard, je pense, c'est un grand mot. Il y a quelques initiatives qui ont eu lieu. Après, en pratique, c'est pas vraiment standardisé. Hein. Ça va être du FTP qu'on va télécharger tous les jours à heure régulière et qu'on va ingérer.
Et moi, je me souviens, dans les locaux de Peter Norton, il y avait tout un tas de vieux ordinateurs que personne n'osait toucher. Et ça servait à tester que tous les anciens virus étaient toujours détectés. Et comment on fait les autres? Ils n'ont pas tous ces vieux ordinateurs, toutes ces vieilles versions de toutes les anciennes versions de Windows, de MS-DOS et j'en passe, pour vérifier leur antivirus. Comment ils font?
Alors, il n'y a plus de tests qui sont faits sur les vieux virus, pour être honnête, de nos jours. On va tester la détection statique, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on le détecte quand il est sur le disque, mais à l'exécution, ce ne sera plus testé.
Hervé, ton iPad ne risque pas d'être infecté par Michelangelo ou Tchernobyl, rassure-toi.
Alors, pour les auditeurs, moi, je fais de l'appréciation des risques et la conclusion de mon appréciation des risques, c'est que je n'utilise aucun antivirus ni logiciel similaire sur aucun de mes appareils. Bon, après, évidemment, j'ai aucun appareil sous Windows.
Et combien il existe de virus aujourd'hui? Parce que des fois, on lit des chiffres dans la presse disant que, je sais pas, il y a 20 000 nouvelles souches par jour. Alors, j'imagine que la plupart sont soit générées automatiquement ou c'est juste des options de compilation qui changent. Mais du coup, j'en conclus que les bases antivirales aujourd'hui doivent se compter en centaines de millions d'instances uniques. Est-ce que c'est même possible d'entraîner un modèle là-dessus? Enfin, ça pose des problèmes de passage à l'échelle qui ne sont pas triviaux, quoi.
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le nombre d'attaques, de malware, etc. Alors, il faut différencier une famille de virus. Par exemple, ça va être Zeus, ça va être Zero Access, un outil, une famille de virus qui va être développée au fil du temps, d'une instance de virus qui est une apparition d'un fichier sur la machine d'un utilisateur. Voilà. Une famille de virus va donner potentiellement naissance à des centaines de milliers d'instances chaque jour. Hein. Ça va être un virus qui va être un malware, en l'occurrence, qui va être paqué. Il faut savoir que les malwares actuels, donc, ils sont encapsulés dans des programmes qu'on appelle crypteurs pour contourner les détections d'antivirus. Et ces programmes sont changés tous les jours. Un crypteur va être utilisé pour obfusquer une famille de malwares une journée et va donner lieu, par exemple, à la distribution de 100 000 instances sur 100 000 PC différents. Et le lendemain, on va utiliser un nouveau crypteur qui va obfusquer la même famille, mais de manière différente, et donner lieu à nouveau à la création de centaines de milliers d'instances qui vont cibler des PC différents. Donc une famille, en l'occurrence, peut donner naissance à des millions d'instances de fichiers, de samples, et c'est pour ça qu'on voit souvent des chiffres énormes, alors que le nombre de familles de malware est plutôt restreint.
Et donc un crypteur, ça chiffre un exécutable, ou en tout cas un fichier malveillant, et ça a juste un bout de code qui, au moment d'être exécuté, va, par exemple, charger ça en mémoire, le déchiffrer, le décoder, que sais-je, et l'exécuter en mémoire, par exemple, pour contourner un antivirus, ou il y a d'autres techniques qui sont largement utilisées à l'heure d'aujourd'hui ? Autre technique ?
Pardon, ça m'a un peu bloqué. Oui, c'est un peu le système des poupées russes, effectivement. Donc l'antivirus, lui, il va essayer de détecter le malware quand il arrive sur le disque, c'est-à-dire il va voir la grosse poupée, l'extérieur de la grosse poupée, qui sera effectivement le crypteur. Et lui, à l'intérieur, va contenir soit le malware directement, soit encore un autre crypteur qui lui-même va contenir un autre crypteur. Et à la fin seulement, on aura le malware en question. Et comment on passe d'une couche à l'autre, d'une poupée à l'autre, ça va être par des techniques, comme tu l'avais très bien dit, d'injection mémoire, de chargement du process. Et entre-temps, effectivement, le crypteur, s'il peut, il va essayer de désactiver les protections antivirales installées sur la machine, s'il y arrive.
Et les antivirus, ils effacent le virus ?
Alors, un bon antivirus n'effacera pas le virus. Il le mettra gentiment en quarantaine, parce qu'un antivirus sait qu'il va... C'est pas impossible qu'il puisse faire une erreur. Donc, il sera mis en quarantaine, l'utilisateur sera notifié, et à l'utilisateur de prendre la décision.
Et depuis quelques années, on parle beaucoup de malware fileless. De quoi on parle dans ce contexte ?
Alors, un malware fileless, ça va être un malware qui va laisser peu ou prou de traces sur le disque. Donc, ça va être une exécution qui a lieu entièrement en mémoire. C'est pas quelque chose d'entièrement nouveau, hein, avec tout ce qui est méterpréteur et compagnie. C'est quelque chose qu'on connaît. Et effectivement, les développeurs de malware utilisent aussi ces techniques, bien évidemment.
Tout à l'heure, tu parlais de la quarantaine. Comment ça fonctionne d'un point de vue antivirus ? C'est-à-dire, il va y avoir l'exécution d'un virus, l'antivirus le flag, qu'est-ce qui se passe ? Il prend le process, il fait un kill -9 dessus, il récupère l'exécutable ou que sais-je, et il le met dans une zone protégée, read-only uniquement. Comment ça fonctionne un petit peu d'un point de vue internals ?
Alors, c'est pas si simple, déjà, de tuer un processus, parce qu'il faut savoir quel processus. Peut-être l'antivirus a détecté le malware, mais est-ce que le malware a été exécuté directement, ou est-ce qu'il est arrivé, par exemple, à la fin, lors de l'installation d'un logiciel, par exemple. Dans ce cas-là, il va peut-être falloir tuer toute l'installation. Donc la première tâche de l'antivirus, ça va être de reconstruire toute la chaîne d'exécution qui a mené à l'exécution de ce virus, la tuer, effectivement, et mettre tous les fichiers qu'il a trouvés au passage, enfin ceux qu'il juge malveillants, effectivement, dans un répertoire spécial, protégé, et les fichiers vont être stockés dedans, chiffrés. Alors ce sont souvent des chiffrements assez basiques, hein. Le but c'est pas de résister à la NSA, c'est simplement que personne n'exécute à nouveau le malware par erreur et que l'antivirus est vraiment le contrôle du malware en quarantaine.
Mais pourquoi est-ce que les antivirus ont besoin d'autant de privilèges du coup sur la machine ? Enfin, s'il s'agit juste de tuer un process et copier un fichier, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des pilotes noyaux ? Est-ce qu'ils ont besoin de faire des choses assez sales comme le faisait un antivirus russe qui avait des techniques de trampoline dans le noyau Windows assez obscures ? Et est-ce que tout ça, ça va pas disparaître ? Parce que là, Microsoft a l'air assez fâché quand même et ils ont fermement l'intention d'interdire tout ce qui est accès au noyau et de passer en mode, on va dire, macOS, téléphonie mobile. Enfin, je sais pas quel est le bon exemple à prendre, mais bon. Siffler la fin de la récré, quoi.
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, dans un monde parfait, l'antivirus se limite simplement à scanner des fichiers ou un processus à la création, et pour ça, il n'a pas besoin de privilèges forcément très élevés. Après, il faut voir qu'il y a certains antivirus qui sont plus spécialisés dans les HIPS, détection dynamique. Alors ceux-là, ils vont avoir tendance à installer plus de sondes, notamment des sondes dans le noyau, pour voir passer plus d'événements, parce que c'est une partie intégrante de leur moteur de détection. Ils vont se concentrer sur la chaîne d'événements suspects, plus que sur un contenu de fichiers suspects. Et aussi, il faut aussi voir qu'un antivirus a aussi des contraintes très élevées de performance, hein. Il faut que ça s'exécute vite. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne peut pas scanner tout à tort et à travers. L'antivirus pour lequel je travaillais, par exemple, on avait pour consigne de ne jamais scanner, si on pouvait, un fichier dans son intégralité, pour des questions de performance. Peut-être quelqu'un va scanner un lecteur réseau en entier, et si on se met à lire tous les fichiers du début à la fin, ça aura des conséquences catastrophiques. Et du coup, pour savoir ce qu'il faut scanner ou non, eh ben, là encore, les sondes noyaux sont quand même assez pratiques. On va détecter tout ce qui est louche, plus que malveillant, et à ce moment-là, l'antivirus va se réveiller et va lancer toute une chaîne de scans plus coûteux que ce qu'il ferait simplement lorsque le fichier est arrivé sur le disque, par exemple.
Et comment on sait ?
Pardon, je voulais répondre à la deuxième partie de la question également. Microsoft, ça fait depuis de nombreuses années qu'il sert de plus en plus la vis, hein. Au début, c'était un peu le Far West, hein. Les antivirus faisaient tout ce qu'ils voulaient, ils patchaient à droite, à gauche, sans vraiment se préoccuper de ce qu'ils faisaient. Qui a déjà utilisé GMER, par exemple, pour faire la réponse à incident avec un antivirus installé, a déjà maudit les antivirus parce qu'il faisait clignoter tous les détecteurs de rootkit. Et par contre, oui, depuis plusieurs années, Microsoft serre la vis de plus en plus. Pour une société d'antivirus, c'est de plus en plus dur de se faire approuver par Microsoft. Ils ont vraiment une checklist à respecter qui grandit et grandit avec le temps, et ça devient très très dur pour les petites sociétés d'antivirus qui n'ont pas la main d'œuvre forcément, de respecter toute cette checklist.
Parce que la checklist te donne accès à quoi à partir du moment où tu l'as checkée ? C'est-à-dire que Microsoft est en capacité de signer tes binaires ou te donner à des accès, par exemple, pour que tu puisses exécuter du code dans le noyau ? Qu'est-ce qui te donne accès exactement ?
Alors effectivement, d'abord, il va signer le driver de l'antivirus, ça c'est important, et il va notamment le signer de manière à ce que cet antivirus puisse être reconnu comme antivirus dans Windows. Sinon, Windows Defender refusera de se désactiver au profit du nouvel antivirus, si cette checklist n'est pas respectée.
Et quel est le niveau de contrôle qualité que vous faites ? Enfin, il y a quand même quelques accidents assez notables. Il y a des antivirus qui effaçaient, pas kernel32.dll que je citais tout à l'heure, mais il y en a qui ont effacé des fichiers totalement légitimes de Windows, et ça pose quand même des questions sur le... Enfin, sans parler de conserver des machines archaïques, hein, mais juste au moins le passer sur un Windows à jour et vérifier que la machine reboot, quoi.
Alors, c'est une bonne question. Chaque antivirus a son vilain petit canard, a son histoire où il y a une bourde. Et même dans les boîtes d'antivirus, souvent, chaque développeur a fait une erreur à un moment. Moi, j'ai la mienne, par exemple. Hein. Quand j'ai débuté, j'ai fait mon erreur comme tout le monde. J'avais détecté c'était un téléchargement partiel d'une mise à jour de Windows. Je l'avais confondu avec un fichier mal désinfecté, par exemple. Parce que ça se ressemble quand même pas mal. Un fichier partiellement téléchargé et un fichier qui a été mal désinfecté par un antivirus, ça peut sembler assez similaire, et je les ai détectés. Donc voilà, ça c'était mon moment oupsi. Et tout le monde a son petit moment oupsi, et ça arrive. Mais heureusement, les contrôles qualité sont quand même très 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 poussés. Hein. Évidemment, on ne pourra jamais tout tester, mais avant chaque release de chaque signature, c'est des tests qui sont faits sur des grappes de machines à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de machines. On va scanner l'intégralité de la collection d'un antivirus. Alors là, les chiffres, ça dépend des antivirus, effectivement. Les chiffres, ça peut être souvent des centaines de millions de samples, voire un milliard. On va aussi avoir les tests dynamiques, évidemment. Les antivirus vont tester, là ça va être plutôt manuel, hein, tester sur des machines nouvelles, sur des machines dans différents environnements, avec tous les systèmes d'exploitation, c'est vraiment une énorme machinerie. Oui.
Et d'un point de vue déploiement, est-ce qu'après c'est des déploiements parcellaires, un petit peu façon déploiement Canary, typiquement à 5% du parc, en tout cas, qui se met à jour, et ensuite après, au fur et à mesure, le reste des machines met à jour sa base de signature, comment ça fonctionne, ou alors c'est du Big Bang, et potentiellement ça peut tout faire craquer?
Alors je peux que parler pour les sociétés d'antivirus pour lesquelles j'ai travaillé, et pour celles-là, oui, c'était parcellaire. Hein. C'était effectivement au début une centaine d'utilisateurs, ensuite 1000, ensuite 10 000, tout ça se fait de manière automatique, évidemment. Et il faut faire aussi attention à chaque région du monde, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes erreurs selon des versions différentes de Windows. Donc ça s'est répété pour chaque version de Windows.
Quel est l'avenir de l'industrie antivirus ? Parce que tu citais Windows Defender tout à l'heure, qui est quand même gratuit, livré avec Windows. Est-ce que il y a aussi beaucoup d'antivirus gratuits sur le marché, mais qui apparemment des sources de financement alternatives à base de collecte de données utilisateurs ou qui te vendent des VPN ou ce genre de choses ? Est-ce qu'il y a encore un marché pour les antivirus commerciaux ?
Alors, l'avenir est plutôt morose. Hein. Faut voir que Windows, Microsoft, à une époque, ils étaient très bienveillants envers les antivirus. On les voyait, les gens de Microsoft, aux conférences, et ils étaient là pour aider les autres. Dites-nous ce dont vous avez besoin dans Windows pour vous aider. Et maintenant, ils sont légèrement plus agressifs. Hein. Je pense que c'est un peu venu avec l'arrivée de Windows ATP ou toute l'offre endpoint, détection endpoint de Microsoft, où ils ont plus mis en avant donc Windows Defender. Et de plus en plus de gens, effectivement, se disent « Windows Defender, il s'est bien amélioré avec le temps, pourquoi j'aurais besoin d'autre chose ?» Les antivirus non Microsoft sont quand même, dans les tests en tout cas, plus performants que ceux de Microsoft. Mais est-ce que ça suffit vraiment pour décider tous les utilisateurs? Je pense qu'il y a toujours une base d'utilisateurs qui restera sur ce type d'antivirus. Les utilisateurs très techniques, d'une part, et les utilisateurs qui n'aiment pas changer leurs habitudes, d'autre part. Mais oui, l'avenir est plutôt morose, et je pense ce qu'on va voir, c'est plutôt des concentrations de sociétés antivirus, ce qu'on est déjà en train de voir en ce moment. Hein. C'est vu que Avast et Avira se sont fait racheter, par exemple, par Norton, récemment, et c'est ce qu'on va voir dans le futur.
Et quel est ton avis sur, par exemple, des devices type Chromebook et justement l'usage ou non d'antivirus sur ce type de device?
Alors, je vais répondre à la question plus générale de est-ce que j'ai besoin d'antivirus sur ma configuration spécifique ou mon OS spécifique? Alors, évidemment, il ne faut pas croire tous ceux qui disent Mac c'est sûr, Linux c'est sûr. Il faut simplement voir que les développeurs d'antivirus, ce sont des gens feignants, hein, comme la plupart d'entre nous, qui vont au plus vite et vont viser le plus gros profit dans un minimum de temps. Donc, ils vont cibler les machines qui sont les plus répandues. Tout simplement. Le jour où ça change, et ça commence à changer, hein, on va voir de plus en plus de virus arriver sur les autres plateformes.
Et cette question est sans lien avec la précédente, mais quelle est la vie chez un employé d'éditeur antivirus? Est-ce que tu fais du reverse toute la journée? Est-ce que tu fais des réunions toute la journée? Est-ce que tu recommandes à des jeunes de se lancer là-dedans? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on fait en fin de carrière quand on a été pentester, qu'on a écrit soi-même des packers, des rats, ce genre de choses?
Alors moi, j'ai eu la chance de commencer. Voilà, c'était mon premier emploi donc dans la société d'antivirus, c'était ma chance. Alors souvent quand on commence, par chance c'était pas mon cas, mais quand on commence, on fait évidemment les tâches que personne ne veut faire, donc ça, on va souvent travailler l'assurance qualité ou alors gérer les remontées utilisateurs de faux positifs et vérifier, donc c'est du travail que personne n'aime faire, mais on apprend aussi beaucoup de choses en le faisant, donc c'est quand même pas complètement inutile. Et une fois souvent qu'on a passé ce stade, on monte un peu en grade, et là il y a plein de métiers intéressants à faire. Moi j'étais spécialisé par exemple dans la détection heuristique, j'étais en charge avec mon équipe du développement du moteur heuristique de l'antivirus. Donc ça veut dire une journée typique, ça veut dire on va ouvrir la collection, on va regarder tous les fichiers qu'on a reçus aujourd'hui, qui n'ont pas été détectés par notre antivirus, mais qui ont été détectés peut-être par d'autres antivirus, donc c'est des détections qu'on a ratées. On va les regarder rapidement. Alors, je vais pas vraiment appeler ça du reverse engineering, c'est plutôt du triage, du tri. On regarde les fichiers très rapidement, on regarde qu'est-ce qui est suspect là-dedans. Est-ce qu'on pourrait éventuellement modifier un peu le moteur heuristique pour mieux détecter ces fichiers? On va mettre à jour ce moteur et voir le résultat. Donc ça, c'est un métier qui est possible, moteur heuristique. Il y a des métiers un peu plus R&D, où on va se focaliser, par exemple, sur mettre à jour le moteur d'émulation ou des nouvelles techniques de détection. Les antivirus aussi, ils ont souvent en interne des sandbox qu'ils maintiennent. Il y a aussi ces métiers-là. Voilà.
Et la question quand même se pose par rapport au mobile, parce que ça, c'est quelque chose qui est devenu populaire, peut-être contrairement au Chromebook, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, comment vous avez géré l'arrivée des applications mobiles malveillantes ?
Alors, le mobile, c'est assez frustrant pour un éditeur d'antivirus, parce que sur Android, on ne peut quand même pas faire grand-chose. En tant qu'antivirus, on ne peut pas se pluguer sur les différents événements système. Ça va être beaucoup de la réputation. En fait, tout le travail pour les mobiles, ça va être effectué en amont. Donc, les antivirus vont essayer depuis leurs locaux, vont télécharger toutes les applications qui sont disponibles sur le Play Store, les scanner en avance et effectuer tout le travail en amont. Donc, voilà comment va s'adapter un antivirus. Parce qu'il n'a pas vraiment les mains libres sur Android pour mettre en place toutes ces techniques de détection.
Aujourd'hui, les RSSI, ils n'ont plus que l'EDR à la bouche. Est-ce que, pour toi, quand on a bien déployé son EDR favori, avec le CIEM, le SOC, tout ce qu'il y a bien derrière, est-ce que l'antivirus, ça ne sert plus à rien ou est-ce que c'est toujours absolument complémentaire et utile ?
Alors, je pense que les deux sont complémentaires. Il faut voir que les menaces actuelles, tout ce qui est ransomware, etc., ils vont beaucoup se reposer sur des outils qui ne sont pas malveillants. Hein. Par exemple, on va les voir utiliser des outils comme AirClone pour exfiltrer des données ou BitLocker pour chiffrer le disque. Donc là, effectivement, l'antivirus sera pas très efficace dans ces cas-là, parce que ce sont des logiciels qui sont sains par définition. Et effectivement, ils ont de la détection dynamique également, mais ce sera peut-être pas aussi poussé qu'un EDR qui va se concentrer uniquement sur ça. Mais de l'autre côté, l'antivirus va détecter aussi énormément de choses. Et c'est très important pour une entreprise de focaliser tous ses moyens sur les 0,001% de la surface d'attaque très sophistiquée, mais si elle veut vraiment se focaliser là-dessus, il faut quelqu'un qui nettoie tout le reste. Et pour ça, l'antivirus, on n'a pas encore trouvé mieux, malheureusement. Il va vous détecter 99,999% de ce qui circule en ce moment. Toutes les infections un peu bêtes, la secrétaire qui double-clique sur la pièce jointe, tout ce qui n'est pas très sophistiqué sera détecté et ça permettra donc aux équipes de sécurité de se focaliser sur l'important.
Alors avant de terminer, sur les fameux tests et les évaluations d'antivirus, est-ce que ces classements sur lesquels tout le monde veut être premier, est-ce que ça fausse pas le contenu et le fonctionnement de l'antivirus lui-même ?
Alors effectivement, ces tests, ils sont un petit peu artificiels. Alors, ils ont le mérite d'exister, c'est même ce qu'il y a de mieux en ce moment pour évaluer un antivirus, mais il faut voir que c'est des conditions de test qui ne sont pas toujours très représentatives de ce qui se passe dans la nature. Et il faut aussi voir que la compétition dans ces tests, elle est extrêmement serrée. La différence entre une première place et une dernière place dans un test antivirus comme AV-Test ou AV-Comparatif, ça se joue souvent à un ou deux faux positifs parfois. Donc les antivirus, ils vont avoir tendance à être un petit peu frileux, très frileux, voire trop frileux, pour ne pas plonger dans ces tests. Alors c'est un comportement qu'on peut vouloir ou non. Quand on est une société qui ne peut pas se permettre le moindre faux positif, c'est une bonne chose. Quand on est une entreprise qui, elle, par contre, va ne pas pouvoir supporter la moindre infection, mais peut se permettre quelques faux positifs, ça va être plus ennuyeux, par exemple, cette frilosité des antivirus qui est directement liée à ces tests.
Mais c'est pas configurable pour l'utilisateur ?
Oui et non, on peut changer le mode d'agressivité de l'antivirus, mais ça va plutôt gérer quel type de technique est employée, plus que son accommodation à des faux positifs.
Ok, Renaud, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Pour le mot de la fin, j'aimerais clarifier, j'espère que j'ai été assez clair donc, sur la différence entre antivirus next-gen et antivirus classique, qui est avant tout une différence marketing. Un antivirus classique va utiliser les mêmes techniques qu'un antivirus next-gen, les utilise souvent même depuis plus longtemps. Et voilà, avant de choisir quelle solution de détection vous allez utiliser, voilà, n'écoutez pas trop le discours marketing, faites-vous une opinion par vous-même, regardez les tests scientifiques approuvés, et voilà, faites-vous votre idée.
Eh bien Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.